savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
De l'actualité, en veux-tu, en voilà aujourd'hui.
Oui.
On commence tout de suite par un témoignage qui a lieu en ce moment. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, qui est en train de témoigner à la commission sur l'ingérence étrangère. Puis c'est, on s'entend, le témoignage le plus attendu puis le plus important de la commission. Là.
D'autant plus attendu après, parce que disons c'est le 48 heures là, le plus croustillant.
Oui.
Parce qu'hier, c'était le personnel politique de M. Trudeau. Puis t'sais, sous-estimez pas les gens moins familiers. T'sais, quand on dit sa directrice de cabinet, là, c'est comme son ombre. Là. T'sais, c'est la personne. C'est pas une personne à qui il parle à tous les jours. C'est une personne à qui il parle 30 fois par jour, qui parle oui. à tous les 20 minutes, là, tu comprends? J'exagère, là, mais qui sait tout, qui planifie tout, qui sait ce qu'il y en a sur son agenda, qui s'assure qu'en vue de la rencontre, il y a ses documents,
oui.
Qu'est-ce qu'il va dire, c'est quoi notre objectif? Ok, vous rencontrez un tel, n'oubliez pas de parler de tel sujet. Elle vient dire, nous autres, là, on a été avertis un peu par les services de renseignement, mais avant que ça sorte dans les médias, avant que ça sorte dans le Globe and Mail et compagnie, c'était pas une grosse crise. C'est comme si les services de renseignement nous ont dit, ouais, on vous passe de l'info, mais c'était pas, il n'y a pas de notion de sonner une alarme.
Mais ce qui est fascinant là-dedans, Mario, c'est que dans tous les cas, là, qu'il y a eu de la négligence de M. Trudeau, de son personnel, de son cabinet, qui n'ont pas cru que c'était important.
Ou du SCRS.
Ou du SCRS, nos services de renseignement, je le rappelle, hein, nos espions, notre personnel de renseignement au Canada, qui ont fourni un rapport qui n'était pas assez pressant ou qui n'ont pas communiqué assez fort à quel point c'était important de surveiller tout ça. Dans les deux cas, c'est complètement inquiétant. Là.
C'est-à-dire que dans les deux cas, quelqu'un, mettons, qui est dans un service de renseignement à Londres ou à Washington, qui suit les travaux de la commission au Canada, il fait...
Il se tape sur le coco. C'est sûr qu'il se tape sur le coco. Là, regarde ça, il fait... Il y a de l'ingérence dans votre pays, puis vous le dites
pas. Ça, c'est un de nos pays alliés avec qui on est supposé partager tous les renseignements parce que c'est un pays fiable.
Nos alliés sont censés nous aider militairement si on est dans le chenoute.
C'est ça. Bon... L'autre affaire, tu sais, moi, puis là, le témoignage de M. Trudeau, on est en onde. Évidemment, je l'ai pas écouté, mais je me suis quand même posé la question. Un matin, là, quand je glanais toute l'information, tout ce qui tournait autour, je me disais, mettons que tu as tout le même dossier, puis on sait pas exactement le SCRS, quel mot, tu sais, les rencontres, on n'a pas de petit oiseau, tu sais, qui nous a avertis de comment ça se passait, mais qu'on ne le sait pas. On est obligé de vivre avec ça. Mais mettons que tous les mêmes renseignements sont à l'effet que la Chine, le Parti communiste chinois, là, il veut bousiller la campagne des libéraux, faire battre des candidats libéraux, faire élire un gouvernement conservateur. Parce que là, puis j'accuse pas M. Trudeau d'avoir voulu profiter de la Chine, dans le sens que je pense qu'il, sincèrement, il veut protéger le système électoral canadien. Mais quand même, tu sais, quand quelqu'un vient te dire, regarde, il va y avoir une tricherie, mais pour t'aider.
Oui. Puis soudainement... Des années plus tard, là...
Ça sort.
Puis on n'en a jamais entendu parler avant.
Mais là, tu te dis, est-ce que si les mêmes renseignements avaient été fournis à M. Trudeau ou à son entourage, mais tout est là, c'est votre campagne, c'est vos candidats, c'est le Parti libéral que la Chine veut battre, est-ce qu'il aurait dit, bon, tu sais, tant pis, c'est des affaires de la Chine, ça touche pas beaucoup de comtés, c'est peu de comtés, c'est pas si gros que ça, on laisse aller. Ou est-ce qu'au contraire, il aurait rendu la chose publique pour alerter l'opinion publique, entrepris des actions, changé des lois pour mettre des mécanismes, des loquets de protection? T'sais, ça reste
on
une question,
peut pas le savoir.
Ça reste une question hypothétique, mais qu'on le veuille ou non, on se la pose en voyant tout ça.
Oui, c'est un dossier qui est vraiment intéressant. On va attendre d'avoir des résumés là, complets là, du témoignage de M. Trudeau dans le cadre de toute cette
commission-là. Qui est encore en cours, là où on se parle.
Oui, exact, qui est encore en cours, mais ce n'est pas la seule nouvelle de M. Trudeau qu'on reçoit aujourd'hui. La Fédération canadienne des contribuables là, qui font des demandes d'accès à l'information en série. Là. Honnêtement, j'aimerais pas être les recherchistes de la Fédération qui posent tellement de questions et qui ont tellement de demandes au gouvernement, mais qui finissent par avoir des réponses. Là. C'est eux, entre autres, qui avaient sorti le scandale là, des dépenses en avion, en nourriture de la gouverneure générale en mars 2022. Et voici que on semble avoir récidivé du côté du gouvernement Mario, alors que le voyage de M. Trudeau, cette fois-ci, là, 6 jours de voyage qui a été mené là, dans la tournée Indo-Pacifique qui avait été entreprise à l'automne dernier, ça a coûté 190 000 $ de nourriture dans l'avion, encore une fois. Mario, c'est presque le double de la gouverneure générale pour à peu près la même durée.
Oui, parce que quand il y avait eu le scandale de la gouverneure générale, M. Trudeau avait fait en partie le même voyage, là. Et même on avait utilisé en comparaison pour un peu comme planter la gouverneure générale. Elle dit, garde, le premier ministre, il y avait à peu près, je me souviens pas des nombres d'invités, mais tu faisais des règles de toi. Puis tu regardes, le premier ministre, son coût par repas est bien plus raisonnable. Mais là, c'est plus cher, là.
Oui.
C'est vraiment cher.
C'est presque le double.
Mais on se porte-tu un traiteur?
Honnêtement, puis on se comprend, c'est ingrat, Mario, on va mettre les points tout de suite sur les « i ». On se comprend que c'est l'armée canadienne, c'est les services de protection, c'est eux qui sont en charge de la nourriture. C'est pas M. Trudeau qui choisit son menu comme ça, puis qui décide qu'est-ce qui est dessus.
Puis je peux imaginer que pour avoir un bon repas là, que t'amènes en vol, parce que on se comprend qu'un repas cheap en vol, là,
oui.
Nous autres...
Pas fort, hein?
Non, non, mais nous autres, on sait c'est quoi, là. Si tu voyages en classe ordinaire, toi, en classe économique, là...
Une tranche de ballonné, une tranche de fromage orange,
non,
non, deux
mais
tranches
c'est,
de pain.
C'est ça, voilà. Puis des fois, tu vas avoir le petit repas, là, tu sais, t'enlèves l'affaire, t'as un petit peu de pâte, un petit poulet, le chicken or pasta, là, tu sais. Puis... Mais, je peux comprendre que ça coûte cher, mais c'est vraiment très, très cher. Là, il y avait beaucoup de... Il y avait une grosse délégation avec lui quand même, entre autres économique.
Voilà, grosse délégation, beaucoup de gens. Là, on ne sait pas exactement le nombre précis d'invités qu'il y avait avec lui tout le long, mais on a les dépenses là, séparées. Là. C'est 427 000 $ de sécurité de la GRC. OK, ça coûte cher. Après ça, 643 000 frais, $ de frais de carburant, de déplacement d'avion. OK, je comprends, c'est cher. Mais là, quand tu arrives... 190 000 $ de restauration en vol. Juste de restauration en vol. Mais quand on avait fait les détails, puis c'est un exercice qu'on s'est livré à cœur joie ici à Cube, Mario, celle de décortiquer là, chaque dépense lorsqu'elles sont sorties de Mary Simon.
On se souvient des tranches de lime et de citron.
500 $ de
chacun,
tranches d'agrumes.
C'était 1000 pour les deux.
Ça, c'est
de mémoire, là, c'était 500 de lime, 500 de citron. Peut-être que je me trompe, mais ça me semble que c'est bien ça.
Oui, puis quand on avait eu finalement, parce que...
Des belles tranches. Tout ben, égal, bien faites, bien tranchées.
Oui, coupées probablement au laser de manière chirurgicale, on se comprend à ce prix-là. Non, mais on avait fait le décompte de tout ça. Je rappelle que la représentante de la gouverneure générale avait dit, mais c'est les mêmes repas que dans les avions de ligne qui étaient servis, puis c'était comme, tu sais, du filet mignon, puis du homard, puis des omelettes le matin. Pis, c'était pas du tout la même chose que ça. Mais là, en six jours, même si t'as plus de gens, d'arriver au double de la facture des tranches de lime à 500$, j'ai tellement hâte. Mais
de
j'ai
voir le détail. Est-ce qu'on l'aura probablement?
Mais si on continue à faire des demandes comme ça là, du côté de la fédération et des journalistes, fort probablement qu'on va finir par avoir tout ça. Parce que je rappelle aussi que c'est quelque chose qui avait émergé de cette crise autour de Mary Simon, de ce mini-scandale des repas en vol. Ce qu'on avait promis, on avait mis des mesures pour limiter les dépenses frivoles à l'avenir dans les voyages du gouvernement. Faut croire que ça n'a pas marché.
Tout savoir en 24 minutes.
Aujourd'hui, projet de loi qui est déposé par la Coalition Avenir Québec, plus particulièrement par la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, pour essayer de prévenir, d'endiguer le phénomène qui a été beaucoup répertorié, celui de l'intimidation, du climat toxique envers les élus, là, un peu partout dans les municipalités du Québec. Parce que c'est ce qui a fait en sorte là, de faire partir beaucoup d'élus, des centaines d'élus qui ont démissionné dans les dernières années depuis les dernières élections municipales. Et là, on veut rectifier le tir en amenant un projet de loi qui vient vraiment protéger beaucoup mieux nos élus au Québec, Mario. Puis c'est des amendes là, qui pourraient être données, ni plus ni moins, là, à des gens qui viendraient là, entraver les fonctions ou limiter la sécurité d'un élu entre 500 et 1500 $, puis plein de recours là, qui sont amenés, qui sont nécessaires, ouais. On s'entend.
Moi, je reconnais le problème. Il y a pas de, s'il y a un problème là, de harcèlement des élus. J'attends d'avoir des analyses juridiques sur le projet de loi. C'est-à-dire que autant là, tu sais, je méprise les gens qui agressent des élus sur les réseaux sociaux, puis des commentaires personnels sur les femmes, des colons de course. Autant je vais défendre à la vie à la mort le droit de critiquer les élus est un droit fondamental.
Ouais.
C'est-à-dire que en gros, là, un élu peut t'imposer une nouvelle taxe. Puis toi, ben, t'as pas le choix de payer la nouvelle taxe. Ça, c'est un droit que t'as pas, là, de pas la payer. Faut que tu la payes. Si elle te vise, tu dois la payer. Sinon, ils vont prendre les tribunaux, ils vont te ramasser. Tu vas la payer avec des amendes, des pénalités, puis plus, puis de l'intérêt. Bon. Mais, donc, le seul droit qui te reste, c'est de critiquer la nouvelle taxe.
Ouais, c'est de chialer.
C'est ça, de chialer. Sur les tribunes qui te sont offertes. Alors là, si on me disait que quelqu'un va payer l'amende parce qu'il chiale trop, puis là, ben là, après ça, c'est la ligne.
C'est
évidemment,
ça, hein?
Évidemment, si tu dis à une conseillère municipale ou à la mairesse qu'elle est une grosse si puis ça, pis avec tous les mots de l'Église mélangés avec les parties du corps humain, puis tout ça, puis des saloperies sexuelles, c'est totalement inacceptable, parce que ça n'a pas rapport avec le dossier. Mais mettons que tu n'es vraiment pas content du dossier, que tu fais des manifestations, que tu chiales, que tu répètes, puis tout ça... On peut être tanné de toi, on peut te trouver, mais t'es toujours dans le champ de la liberté. Tant que tu parles du dossier, là, ou tant que tu parles de ce qui fait ton insatisfaction, t'es toujours dans le champ de la liberté d'expression. Tu peux être un peu quérulant sur les bords dans ton expression politique. Mais j'ai hâte de voir des interprétations juridiques de la loi telle qu'elle est. Je peux être rassuré là, que la loi a les bonnes balises, mais je suis D'ailleurs, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'en inquiétaient déjà. Puis je peux pas leur donner tort de s'inquiéter. Dire, quelqu'un qui a pas le texte du projet de loi, qui reçoit ça comme ça, puis qui se dit, ben voyons, on n'aura plus le droit de critiquer les élus, je le comprends de devenir mal à l'aise.
Oui, c'est vrai, parce que la limite, elle, est pas complètement claire non plus.
Non.
Il va falloir que les tribunaux...
Des fois, c'est clair. Je te dis, il y a des gens qui sont tellement mal polis, menaçants. Mais par contre, dans les propos menaçants,
la police intervient déjà.
Ben c'est ça. La police intervient déjà. La police est beaucoup plus proactive, prend beaucoup plus au sérieux. Donc, tout ce qui est menace de mort, d'attaque, tout ce qui est du harcèlement, quelqu'un qui va à la résidence personnelle, les policiers sont beaucoup plus à l'affût et les actions sont déjà là, entreprises. En tout cas, je pense que les élus municipaux réclamaient cette action-là. On a effectivement eu un nombre anormal de démissions depuis une couple d'années. Mais donc là, on a une action qui est proposée, mais ça va devoir être regardé scrupuleusement.
Actualité.
Nouvelle qui est tombée un peu comme une bombe dans le milieu médiatique québécois, alors qu'on a appris plus tôt aujourd'hui que le chroniqueur vedette MC Gilles a été renvoyé par Cogeco Média. La nouvelle qui a été d'abord rapportée par la presse, puis dans les autres médias aujourd'hui, alors qu'on a très peu de détails sur le congédiement.
Ouais. Ben, c'est-à-dire que, d'abord, c'est un gars dont j'aime beaucoup l'esprit, la culture, l'érudition, l'attachement au Québec. D'abord, dans un premier temps, quand Cogeco a parlé, ça donnait vraiment l'impression que lui avait commis, parce que c'est tellement sec. Là, la semaine passée, la presse laissait entendre qu'il allait avoir, en tout cas, un nouveau rôle, plus une promotion là, que d'autres choses. Puis là, il quitte un mercredi, et puis là. T'sais, il était là le mardi, puis le mercredi, bang, et puis là.
Oui, c'est vraiment un congédiement, qui est expliqué d'ailleurs, parce qu'il y a eu réaction plus tard aujourd'hui là, de MC Gilles.
C'est ça,
écrit...
mais avant sa réaction... T'avais quasiment l'impression qu'il avait commis des gestes, inacceptables, aux limites de la loi. Donc l'employeur, là, t'sais, passe la machette, là, passe le couteau. Là, lui a réagi.
Oui, parce que là, les mots exacts qui avaient été utilisés par Cogeco, c'est des raisons professionnelles qui demeurent de régie interne. On se comprend que c'est assez mystérieux, mais ça laissait présager quelque chose, comme tu le dis, d'assez important à l'interne. Et là, après ça, M. Gilles dit qu'il a appris hier soir, le mardi soir, appris qu'il était renvoyé de Cogeco Média. Il explique que c'est pas sa décision, qu'il est déçu de perdre ce lien privilégié-là. Ça fait 19 ans qu'il passe des bons moments en ondes et qu'il voulait continuer à le faire, mais que malheureusement, il ne pourra pas.
Mais là, lui, il parle d'une situation qui est arrivée. Il décrit une situation, un conflit ou je sais pas quoi. On sait pas trop exactement de quoi il en parle, mais un climat qui se serait envenimé.
Oui, je vais le citer. Vous comprendrez que dans les circonstances, je ne peux pas m'étendre sur le pourquoi du comment, mais disons simplement que le climat s'est considérablement envenimé ces derniers mois et qu'il m'était devenu impossible psychologiquement de travailler à l'émission du retour. Donc, est-ce que ça laisse présager un conflit de travail?
C'est ça, les collègues, c'est Patrick Lagacé, Catherine Beauchamp de mémoire qui sont dans l'équipe. Sinon, il y a l'environnement autour du reste du personnel de Cogeco, mais il dit de travailler à l'émission du retour.
Oui, qui est animé donc par Patrick Lagacé, si je ne m'abuse, c'est le Québec maintenant.
Qui s'en va remplacer Paul Arcand, là, qui devient la nouvelle vedette du poste. Mais c'est du mystère, ça, là.
Oui, c'est vraiment, vraiment du mystère, parce qu'en radio, on travaille dans une radio, là, si quelqu'un ne revient pas pour une prochaine saison, surtout quand on arrive comme ça en fin de saison, là, en juin, on prend une pause pour l'été.
Puis de toute façon, eux, là, la programmation va être toute rebrassée, donc il y avait l'occasion de le repositionner n'importe où dans la grille dans 7-8 semaines.
Oui, ou de juste pas le renouveler, là, à ce point-là. Mais là, de le couper sec comme ça, sans avertissement, hier soir, merci, bonsoir.
Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce qu'il a fait quelque chose? Ou est-ce qu'un autre membre de l'équipe a dit « Moi, je me présente plus si lui est encore là? »
Ah, toutes les spéculations sont dans les airs. Mario, reste à voir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il risque d'avoir d'autres explications éventuellement aussi autour de tout ça. Mais pour l'instant, ben, le mystère persiste, mais ça fait réagir, Mario, là, sur les réseaux sociaux, les Québécois.
C'est le sujet sur les réseaux sociaux présentement. Le mystère.
Tout savoir en 24 minutes.
Une demande d'action collective a été finalement autorisée qui va viser la Ligue canadienne de hockey, mais aussi la LHJMQ, hein, la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Et là, ben, c'est les 18 équipes, ni plus ni moins, de la Ligue qui vont être visées par l'action collective, évidemment. Action collective qui comprend là toutes ces allégations d'agression sexuelle, mais surtout de violence, d'intimidation qui ont été vécues dans les rites initiatiques. Là. On se souviendra des initiations, ce scandale-là qui est émergé au hockey, qui a ramené sur la table le fait que, merde, qu'il y a des traditions qui sont archaïques du côté du hockey. Puis ça a été dénoncé par toutes sortes de personnes, entre autres par Carl Latulippe, un ancien joueur des Saguenay-Chicoutimi et des Voltigeurs de Drummondville, qui va d'ailleurs devenir le requérant principal de cette action collective.
Mais là, tous les autres joueurs qui ont participé à des initiations vont pouvoir se joindre à l'action collective.
Oui, puis c'est tous les joueurs, là, ceux qui sont visés par l'action collective. Attachez votre tuque, c'est tous les joueurs depuis le 1er juillet 1969 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On dit que depuis ce temps-là, c'est à peu près 21 000 joueurs qui ont évolué dans la Ligue. Ce qu'on comprend, c'est pas les 21 000 qui vont venir participer à l'action collective, c'est pas les 21 000 qui vont rapporter non plus les mêmes abus à leur égard. Mais ça pourrait être du monde en maudit là, qui viendrait se joindre à cette action collective-là. Donc, reste à voir exactement quelle va être la portée, parce que c'est ce qui avait été débattu, là, Mario, devant la Cour supérieure, là, qui vient de l'autoriser. C'était de savoir, est-ce que ça ratissait trop large, tout ça? Est-ce que de viser toutes les équipes de la LHJMQ, alors qu'il y en avait qui n'existaient même pas à l'époque, qui se sont rajoutées par la suite, est-ce que c'était trop? Est-ce que c'était abusif?
Mais l'autre affaire, c'est est-ce que tu vas avoir tous des cas semblables, là, des cas moins graves, des cas qui sont, mettons que c'est pas chic, mais c'est pas criminel, là, t'sais, alors d'autres affaires, tu dis, ça n'a pas de bon sens que ça a été fait, ça devrait être puni, mais là, toutes ces gradations de gravité-là, de ce qui est, disons, drôle, de très mauvais goût, jusqu'à quasiment à la limite du criminel, là, mais là, est-ce que tu mets des choses aussi différentes, toutes dans le même panier? C'est pas simple.
Oui, puis pour le juge Jacques Bouchard, qui est celui qui entendait et qui autorisait cette action-là, on dit que ben, l'action collective, c'est pas une pré-enquête, mais ça va quand même servir de filtrage, si on veut, d'entendre là, les gens, les requérants qui voudraient s'y joindre, d'entendre toutes sortes d'histoires, de les regrouper pour finalement faire une espèce de tri dans tout ça. Ça risque de brasser, Mario, quand même, là, parce que quand on parle de...
Ça risque de rebrasser des affaires, parce que si on peut aller jusqu'aux années 70, tu risques d'en entendre des vertes puis des pommures, là.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
À pareille heure, dans le précédent épisode, Mario, on se penchait sur cette résidente de 27 ans de Candiac qui était décédée dans son logement d'une mort suspecte. Et là, ben, c'est confirmé, c'est un féminicide. 9e femme tuée au Québec cette année sur la rive sud de Montréal. Donc, et là, on est encore une fois dans le mystère. Il n'y a pas de détails qui ont filtré, à part que la femme, finalement, aurait été trouvée là, dans son logement, dans une chambre, enroulée dans un matelas, serait morte depuis déjà plusieurs heures. On l'avait dit hier, pas de tentative de réanimation sur place. Elle était très clairement morte et serait morte poignardée. Là. C'est les détails qu'on a pour l'instant. Ça pourrait, selon les informations de nos collègues de TVA Nouvelles et du Journal de Montréal, pourrait s'agir d'un incident survenu en contexte conjugal.
Est-ce que le langage policier a évolué dans les dernières heures? Parce que jusqu'à ce midi, on parlait pas de suspect. On disait qu'une personne d'intérêt était en train d'être interrogée. On refusait même de dire si la... Parce que là, on dit que ce serait probablement un meurtre dans un contexte conjugal. Mais on refusait même de dire si la personne d'intérêt était un membre de la famille.
Oui, exact. Mais c'est témoin important. Ça n'a pas changé depuis ce temps-là. Pas d'arrestation en dernière date, Mario, de ce que je peux voir. Et là, ben, les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour essayer de retrouver qui pourrait bien avoir fait ça. Donc, malheureusement, 9e femme là, déjà en 2024 qui est tuée au Québec.
Mais l'histoire du matelas et tout ça, puis qu'il n'y a eu aucune réanimation, ça laisse entendre qu'il s'est peut-être passé...
Un laps de temps, là.
Ouais, parce que quand on a découvert la personne, là, il n'y a pas de réanimation, c'était peut-être une personne qui était décédée depuis des heures, là.
Ben, des heures, probablement pas des jours, parce que c'est en raison du fait qu'elle ne se soit pas présentée à son travail qu'on a appelé les policiers, là. C'est des proches qui étaient inquiets, qui ont dit, ben voyons, c'est pas son genre, rien dire, répond à rien, se présente pas, va aller faire une vérification. Puis, durant la vérification, ben, les policiers, malheureusement, qui l'ont trouvé décédé dans son logement, enquête à suivre.
Économie.
Il y a peut-être des gens qui ont été déçus, Mario, de voir que la Banque du Canada décide de maintenir son taux directeur à 5 % au lieu de la baisse qui n'était pas anticipée, mais espérée.
Toujours hein? Espérée, ouais, toujours espérée, même si... Puis je pense même... Avant encore une ou deux fois là, des annonces de la Banque du Canada, je resterais modéré dans mes espoirs.
Oui, voilà, parce que là, c'est la sixième fois de suite qu'on maintient le taux là, gelé à 5 %. On dit que l'inflation est beaucoup plus là, raisonnable. On continue de contrôler tout ça. Mais c'est la hausse des frais de logement qui continue à être élevée. Le problème, c'est que c'est quand même attribuable, ça aussi, au taux directeur lui-même. Ouais. Donc, on a un drôle de contexte. Est-ce qu'on pourrait voir un changement? Peut-être.
Mais c'est parce que là, il y a deux affaires. Il y a, oui, le Canada, l'inflation semble baisser, mais l'inflation semble baisser aussi parce que l'économie ralentit. On l'a vu avec les chiffres du chômage qui n'étaient pas bons ce mois-ci. Fait que, on sent que le coût des taux d'intérêt, là, quand je dis le coût COUP, le choc des taux d'intérêt se fait sentir durement sur l'économie. On est plus ou moins en récession technique, ou en tout cas en stagnation de l'économie depuis maintenant une couple de trimestres au Québec, au Canada. Mais, et c'est l'immense mais, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, ce matin, les chiffres sur l'inflation, là, c'est exactement le contraire. L'inflation aux États-Unis est repartie, pas fortement, mais quand même repartie à la hausse, assez pour déstabiliser tous les marchés aujourd'hui. Et là, aux États-Unis, il était pareil comme au Canada. Là. Si on se reporte à Noël, autant au Canada qu'aux États-Unis, dans les deux pays, on se disait, bon, ben 2024, ça va être l'année des baisses de taux d'intérêt.
Oui.
Mais là, si tu regardes les économistes là, des grands médias américains, là, au début, ils disaient, mettons à Noël, ils disaient, ah, probablement une baisse au début du printemps, puis après ça, progressivement, ça va baisser. Mais là, si tu lisais plus cet hiver, ils disaient, ouais, là, la baisse, ça va aller au printemps, fin du printemps. Là, tu les écoutes. Ouais, il va y avoir une baisse des taux d'intérêt en 2024, la deuxième moitié d'année, peut-être plus vers l'automne. Puis là, ce matin, avec les nouveaux chiffres sur l'inflation, t'as certains économistes qui commencent à se demander, ouais, ils vont-tu vraiment baisser en 2024, peut-être en toute fin d'année? C'est comme si plus on avance dans le temps, plus on repousse, parce que l'économie américaine, elle, ralentit pas. Et là, est-ce que la Banque du Canada pourrait agir seule, sans... C'est-à-dire que la Fed maintient ses taux élevés, puis la Banque du Canada baisse les siens. Ça, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que le dollar canadien là, va prendre toute une débâcle, pourrait se retrouver sous les 70 sous au printemps ou à l'été. Là. Si vous allez à Old Orchard, vous ne l'aimerez pas.
Ouais, ça va coûter cher, ça rentre jusqu'à Plattsburgh.
Le monde.
On est en train de suivre ce qui se passe à Philadelphie en ce moment aux États-Unis, alors qu'une fusillade qui a éclaté cet après-midi, puis qui fait beaucoup penser à ce qui s'était passé, Mario, le plus de détails émergent à Kansas City. On se souviendra, grande célébration pour la victoire des Chiefs du Super Bowl. Et là, il y avait eu des groupes qui avaient ouvert le feu entre eux, qui s'étaient tirés dessus.
Mais qui n'avaient finalement pas vraiment rapport avec le sport ou, tu sais.
Oh oui, c'était pas un fan déçu là, d'une équipe sportive là, qui venait se venger.
C'était des jeunes qui se tiraient entre eux, puis que ça donne que ça se faisait en parallèle de la parade.
Ben voilà, mais là, aujourd'hui, c'était en marge d'un rassemblement parce que c'est la fin du Ramadan. Hein. Aujourd'hui, il y avait au-dessus de 1000 personnes qui étaient rassemblées. Là,
initialement, on craignait tout de suite un crime religieux, mais là, ça serait pas nécessairement ça.
Mais là, on dit que c'est 5 personnes, 5 arrestations qui ont été menées depuis par la police. 2 groupes qui se serait tiré dessus, littéralement, là, dans une foule de 1000 personnes qui auraient ouvert le feu, selon la police, là, puis je vais le traduire après, mais ils disent « a large volume of gunfire », c'est un large volume de feu, de tir qui a été fait de 2 groupes qui se tiraient les uns les autres. Et là, ben, c'est 3 hommes, 1 femme qui ont été arrêtés d'abord, un autre suspect qui a été arrêté par la suite, qui était lui-même blessé. Puis là, on n'a pas encore toutes les estimations là, du nombre de blessés au travers de tout ça, mais c'est un autre rassemblement aux États-Unis, dans lequel on ouvre le feu, puis des groupes de gens ouvrent le feu, puis essaient de s'affronter dans un contexte comme celui-là. C'est pas surprenant, mais c'est toujours bien malheureux.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.